1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et si regarder une série nous permettait de suivre une leçon d'histoire? En cette période de confinement, encore plus que d'habitude, nous pouvons apprendre tout en nous divertissant. Un ouvrage vient de sortir, ouvrage qui décrypte les 3 séries anglaises préférées des Français, Peaky Blinders, The Crown et Downton Abbey, des gangsters, une famille royale, des maîtres et des valets, des personnages qui n'ont jamais aussi bien raconté l'histoire des Britanniques au XXe siècle. L'Angleterre en série, c'est également le titre du livre de Yoannis de Roade, paru chez First Edition. Bonjour Yoannis de Roade.
Bonjour Philippe Vandel.
Un mot sur vous pour commencer. Votre travail, ce n'est pas de regarder des séries, vous n'êtes pas critique, vous êtes historien et même agrégé d'histoire. En quelle classe enseignez-vous ?
Au lycée, je suis prof d'histoire géo.
D'accord. Alors, donc là, en ce moment, vous êtes en confinement, j'imagine.
Et oui, bien sûr.
Vous faites cours à distance avec vos élèves ?
Oui, c'est des choses qui ne sont pas très faciles à mettre en place pour l'instant. Là, on est au début, on tâtonne, on essaye surtout de ne pas perdre le contact avec les élèves.
Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux séries britanniques ?
Oh, mais les séries britanniques, on les apprécie, on les connaît bien en France. Elles sont souvent très bien jouées. Elles ont souvent ce charme des costumes, des décors.
Et mais vous-même, pourquoi vous êtes intéressé, focalisé sur ce sujet?
Parce que justement, je trouvais que les Britanniques couvrent beaucoup de périodes qu'on connaît nous aussi en France, notamment au XXe siècle, les guerres mondiales, toutes les transformations qu'ont connues notre histoire contemporaine. Et ils se sont mis, avant les Français, à les décrire vraiment de manière très, très percutante, très intéressante.
Vous avez choisi de parler de 3 séries, Peaky Blinders, The Crown et Downton Abbey, en particulier les séries les plus connues des Français d'ailleurs. Pourquoi ces 3-là? Parce que c'était les plus connues?
Oui, et puis parce qu'elles se complètent bien, elles couvrent les mêmes périodes mais pas tout à fait, elles sont un peu décalées chronologiquement, et puis elles n'abordent pas tout ça avec le même ton, donc il y a vraiment une diversité, une variété d'approches qui est stimulante.
Voilà, pour qui n'en connaît qu'une ou deux, racontez-nous de quoi ça parle. Tiens, on va commencer par la série The Crown, on va entendre le son, l'ambiance sonore, parce qu'évidemment c'est magnifique, musicalement, les décors, les costumes, c'est somptueux. Le succès de cette série vient de la fascination qu'on a pour la famille royale ou pas seulement ?
Bon, pas seulement. Bon, c'est vrai que c'est surtout un biopic de Crown d'Elisabeth II, hein, de la reine et de son très très long règne. Mais on découvre aussi les membres de la famille royale et puis le mode de vie très si particulier qu'ils ont et puis comment leur vie entre en résonance avec les événements de leur pays, avec l'histoire de leur pays. Comment tout ça se croise, ça s'entremêle. Ils nous apparaissent à la fois souvent déconnectés et puis en même temps, ils sont bien là dans ce pays en même temps que le reste de la population et tout ça fait écho.
Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire. Dans quelle mesure ce qui est dit, ce qui est raconté dans la série est authentique? Dans quelle mesure vos élèves, les élèves, peuvent s'en servir pour le bac, par exemple?
Avec prudence, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui sont très fidèles dans la reconstitution, les décors, les costumes, les lieux. Il y a parfois même un soin maniaque. Après, par exemple, il y a beaucoup de crises dans The Crown, des crises politiques, des crises sociales. Et là, ils prennent des libertés dans les discours des uns et des autres. On voit beaucoup d'hommes politiques dans The Crown, beaucoup de premiers ministres. On voit Churchill, par exemple. Et là, les scénaristes n'ont pas hésité à lui mettre dans la bouche des mots qu'il n'avait pas prononcés, ou pas à ce moment-là, ou pas de cette manière-là. Donc, il y a beaucoup de liberté. Moi, c'est ce que je trouve amusant. Il ne faut pas se dire que c'est un cours d'histoire. Il faut se dire que c'est une autre manière d'aborder l'histoire, avec effectivement des libertés qui sont prises, mais avec un regard qui peut donner envie d'en savoir plus.
Est-ce qu'on sait si Elisabeth II, la reine, a vu la série ?
Non, c'est pas là-dessus. Le palais Buckingham Palace est vraiment bouche cousue. Alors on suppose que dans son entourage, que dans tout le staff de la famille royale, bien sûr que oui, elle personnellement et sa famille proche. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. On peut imaginer ce qu'on veut. On peut supposer qu'ils n'y sont pas complètement indifférents. Mais il y a vraiment aucun mot à ce sujet.
Oui, vous devez connaître la phrase du cardinal de Retz, célèbre phrase, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Une autre série, mélange la réalité et la fiction, c'est Peaky Blinders. On écoute le générique chanté par Nick Cave and the Bad Seeds.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
On reconnaît bien la voix de l'Australien Nick Cave, cette voix caverneuse. Alors je vais vous dire la vérité, je ne connais pas cette série. Parce que c'est tellement chronophage les séries, si on commence à se lancer dans une série, on ne s'arrête plus et du coup j'aurai plus le temps de lire les livres ou de voir les films. Qu'est-ce que ça raconte d'abord Peaky Blinders ?
Donc on est à Birmingham, on est en 1920, c'est le retour de la Première Guerre mondiale, dans un quartier très populaire, et puis on a cette famille d'origine en partie gitane. Ouais. Ils ont servi pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a tout ce traumatisme, et puis ils vont reprendre leurs affaires. C'est un gang criminel aussi, donc on appelle ces fameux Peaky Blinders. Et puis voilà, on va les suivre dans leurs aventures. Ils ont des ennemis, ils ont des rivaux, ils ont des problèmes familiaux, évidemment, et puis en même temps, ils essayent de connaître une vraie ascension sociale. Et donc, c'est toute une histoire voilà, sociale, politique aussi, qui est racontée, mais on est dans les rues de Birmingham, donc vraiment au milieu du peuple.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cette série ?
Bah, c'est l'approche très très audacieuse, très contemporaine. Hein. Vous venez de passer le générique. Voilà, c'est je crois que le pitch, c'est ça. On imagine qu'on est dans les années 20, mais qu'on entend Nick Cave.
D'accord.
C'est ça le résumé.
Avec du rock'n'roll, mais quand même, quand ils vont dans une boîte de nuit, on entend de la musique des années 20. Ou est-ce qu'ils jouent totalement sur le décalage temporel, comme le film de Sofia Coppola où ils étaient à Versailles avec la reine Marie-Antoinette, mais en basket?
Bah, quasiment. Alors, ça va pas aussi loin visuellement, mais c'est vrai que toute l'ambiance sonore et toute l'esthétique visuelle aussi, elle est très très contemporaine. Ça aide aussi à accrocher. Je crois que c'est une voie pour les fictions historiques, pour aussi capter un autre public.
D'accord, mais il y a pas d'anachronisme. Ils ont pas des portables en 1920.
Non, il n'y a pas de portable en 1920. Après, si on est attentif, effectivement, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas fidèles tout à fait à l'époque. Et d'autres, au contraire, qui le sont énormément.
Par exemple,
il y a des choix qui ont été faits. Bah, dans les costumes, par exemple, qui ont l'air d'époque, en réalité, il y a des choses qui sont plus contemporaines. C'est d'ailleurs pour ça que le look Peaky Blinders a eu beaucoup de succès. Et il y a des enseignes de mode qui l'ont repris à leur compte, des magazines qui ont donné des conseils pour qu'on puisse le copier soi-même.
Qu'est-ce que c'est le look ? Pardonnez-moi, d'un mot, qu'est-ce que c'est le look Peaky Blinders ?
Ah bah alors c'est le grand par-dessus en tweed, c'est la chemise avec ce col penny, la rond un peu particulier, la casquette un peu du grand-père, et puis cette coupe de cheveux très spéciale, complètement rasée sur les côtés avec simplement les cheveux au-dessus. C'est quasiment un uniforme, une panoplie. Hein, et on sait que les vrais Peaky Blinders s'habillaient pas tout à fait comme ça, n'étaient pas coiffés tout à fait comme ça.
Ça me fait sourire parce que je trouvais ça un peu bizarre cette coupe et je me demandais d'où ça venait, donc merci de m'avoir éclairé. Vous voulez ajouter quelque chose et je vous ai interrompu.
Oui, simplement que par ailleurs, sur des événements historiques, sur des événements sociaux, parfois la série est très précise. Quand on nous dit qu'il y a eu une vague de grève à Birmingham à ce moment-là, bah effectivement, quand on va vérifier dans les livres d'histoire, c'est vrai, la ville a été secouée par des manifs, des révoltes exactement à cette période. Donc d'un côté, ils collent vraiment au passé, et puis de l'autre, quand ils en font le choix, les scénaristes, ils s'en écartent.
Voilà, on continue de parler des séries en compagnie de vous, Yanis de Rode, auteur de L'Angleterre en série. A tout de suite, on marque une pause.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec Yanis de Rode, vous êtes professeur agrégé d'histoire et en même temps vous venez de publier un livre sur les séries britanniques que nous aimons beaucoup, ça s'appelle L'Angleterre en série. Nous aimons beaucoup, c'est les Français, c'est les trois séries préférées des Français, livre paru chez First Edition. Il y a Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces trois séries ?
Ben, ce qu'elles ont en commun, c'est finalement de nous raconter notre passé proche. Hein, le XXe siècle, il est pas si lointain encore. Et donc de nous rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, quand même un certain nombre d'événements qu'on a pu vivre, qu'on a pu apprendre à l'école.
Oh, quand même, en toile de fond, il y a quand même la guerre de 14. Ça parle à peu de gens quand même, la guerre de 14. Ce qui est en toile de fond dans ces trois séries, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'il y a justement ce sous-texte de la guerre qui est là ou qui a été là.
Oui, mais en même temps, la guerre de 14, je trouve qu'elle est restée très présente dans les mémoires. On continue de la commémorer, on a régulièrement des magazines, des documentaires, des films qui sortent. Tout récemment, le Sam Mendes a remis encore ce conflit dans l'actualité. Donc finalement, c'est un passé voilà, qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, c'est vrai, mais sur lequel on a encore quand même, qui nous est familier, hein, plus que le Moyen-Âge, plus que l'Antiquité, c'est sûr.
Alors, je parlais de la guerre, dans Peaky Blinders et Downton Abbey, les personnages se retrouvent souvent enrôlés pendant la Première Guerre mondiale. On va entendre l'ambiance sonore de Downton Abbey. Dites-nous, que raconte la série ?
Alors, Downton Abbey, c'est une série met en scène des maîtres et des valets dans une grande demeure aristocratique de l'Angleterre et qui va effectivement être très troublée par la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment un avant et un après. Hein. Bon, la première saison se passe avant la guerre et tout le reste se passe après. Et on sent que plus rien ne sera comme avant. Hein. La Première Guerre mondiale, en Angleterre comme en France, elle a tout changé.
Downton Abbey, c'est une série avec des dominants et des dominés. Est-ce que c'est une allégorie de certains qui voient renaître une sorte de lutte des classes ou alors le Nord qui dominerait le Sud? Est-ce que vous voyez ça comme ça ou pas du tout? Là, on va trop loin en disant ça.
Non, on va pas trop loin, mais les Anglais ont toujours fait des fictions très sociales et des fictions dans lesquelles il y avait des grands contrastes de classe. Hein. On s'en rend pas trop compte en France parce qu'on est un peu frileux à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais en Angleterre, ils ont jamais reculé devant la reconnaissance, l'acceptation de ce type de contraste. Et c'est vrai que dans Downton Abbey, c'est clairement ça, le fil conducteur. Hein. C'est ce qui fait avancer l'histoire.
Alors, dans l'histoire, on voit des grandes dates dans ces séries. On voit 1912 Titanic, le krach boursier de 29, la nationalisation du canal de Suez en 56. C'est quelque chose qui frappe parce que dans les séries françaises, il n'y a pas ce background, cet anglicisme d'événements historiques. Il y a très peu de séries qui font référence, par exemple, à la guerre d'Algérie, ou alors on est totalement centré là-dessus. Et par exemple, dans Peaky Blinders ou dans Downton Abbey, il y a également la question irlandaise qui revient.
Oui, ça c'est quand même quelque chose qui a traumatisé aussi les Anglais, les Irlandais surtout, mais les Anglais aussi pendant des décennies. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant à suivre d'une série à l'autre, c'est-à-dire qu'avec Peaky Blinders, on voit le conflit irlandais comme il se présente dans les années 20, et puis avec The Crown, on va la voir là, dans la prochaine saison, dans les années 70. Et on mesure finalement la longueur hein, de cette question irlandaise, la durée.
Et on voit même dans The Crown le mouvement d'émancipation des femmes.
Oui, bien sûr. Alors les Anglais ont été assez pionniers en la matière. Le droit de vote a été accordé en Angleterre bien avant qu'il le soit en France. Et les suffragettes, hein, puisque c'est leur nom, c'est un mouvement qui est d'origine effectivement des États-Unis, mais aussi beaucoup de l'Angleterre. Et ça, c'est bien représenté dans ces séries-là.
C'était en quelle année en Angleterre ?
C'est après la Première Guerre mondiale.
D'accord.
On est vraiment dans cette... Les femmes, leur rôle a changé pendant la guerre et forcément, il y a eu des conséquences politiques.
Alors qu'en France, de mémoire, c'était après la Seconde Guerre mondiale et non pas ça ne remonte pas au Front populaire, comme on le croit parfois à tort.
Et non, 1944.
Vous racontez que la série The Crown n'a rien inventé, que faire des séries sur les rois en Angleterre, ça remonte à l'époque de Shakespeare.
Oui, la fiction historique, c'est quelque chose que les Anglais ont toujours adoré. C'est vrai qu'au théâtre, déjà, ils aimaient mettre en scène leurs anciens souverains. Par comparaison, en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais osé faire. Hein. Le roi, il est toujours un petit peu absent. On en parle, on l'invoque, mais ce n'est pas lui le sujet de la fiction. Ils n'ont pas ce type de scrupule en Angleterre.
Il y a une époque où on ne voyait que des séries américaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est parce que les séries anglaises sont devenues plus qualitatives qu'avant, de meilleure qualité, ou simplement parce qu'il y en a davantage et du coup, on les voit de fait par l'effet de nombre?
Oui, elles arrivent à mieux s'exporter aussi. Ils ont comme les Américains, ils ont la langue, hein, évidemment, c'est quand même un grand atout. Ils sont portés par des acteurs qui sont souvent très connus parce qu'on les a vus aussi dans des séries américaines. Mm-hmm. Il y a plein d'acteurs anglais dans Game of Thrones, par exemple, qu'on peut avoir plaisir à retrouver dans d'autres séries ensuite, très, très british. C'est vrai que pour eux, c'est quand même à l'exportation, c'est un atout extraordinaire.
En quoi ces trois séries résonnent dans l'actualité? C'est pas seulement de l'histoire, ou alors c'est de l'histoire contemporaine, de l'histoire immédiate. Vous avez écrit ça au moment du débat sur le Brexit.
Oui, c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que c'était un moment où on se repenchait beaucoup sur la situation de ce pays toujours un petit peu à part, hein, le Royaume-Uni, si loin, si proche.
Ouais.
Et au moment où ils étaient en train de débattre et de se déchirer pour quitter l'Union européenne, on se rendait compte à quel point leur histoire, elle est proche de la nôtre. Elle a ses particularités, bien sûr, mais ils nous ressemblent quand même beaucoup. Ils ont vécu la guerre comme nous, ils ont vécu l'industrialisation comme nous, et ainsi de suite. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui a joué aussi dans l'élaboration de ces séries. Hein. Les Anglais se sont demandé qui nous sommes, d'où on vient, qu'est-ce que c'est notre passé. Enfin, des questions qu'ils se sont posées beaucoup ces dernières années.
Ils nous ressemblent beaucoup, mais en même temps, ils font des choses qu'on n'ose pas encore faire en France, et de parler de l'actualité immédiate. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer une série où est-ce qu'il y a des évocations de, je sais pas moi, l'affaire de la relation entre le prince Andrew et le millionnaire pédophile Jeffrey Epstein?
Alors, ça va venir. Je pense qu'effectivement, la chose qui sont encore très, très, très actuelles, mais on pourrait imaginer, bon, c'est pas ce qui est prévu pour The Crown, qu'elle se prolonge indéfiniment, mais si elle se prolongeait indéfiniment, je suis sûr qu'à un moment, on en arriverait à l'évocation des petits-fils de la reine et des derniers scandales ou soubresauts. Les Anglais en parleront d'une manière ou d'une autre. Ils ont du courage dans leur fiction historique et aussi dans leur fiction politique. Donc, d'une façon ou d'une autre, on pourra le voir à l'écran un de ces jours.
Un mot de télévision, comment travaille-t-il là-bas en Angleterre, dans les îles britanniques. Est-ce que parce que leur marché, et puis ils parlent la langue anglaise, c'est parce que le marché est quasiment mondial, ils écrivent pour le monde entier, ou est-ce qu'ils ciblent d'abord pour les chaînes de télévision et les réseaux anglais britanniques?
Bon, un peu les deux, évidemment. Ça dépend aussi des productions. Hein. Comme tout le monde, ils passent de plus en plus maintenant par des plateformes. Donc, quand ils essayent de se faire distribuer par Netflix ou par Amazon, c'est tout de suite un marché mondial. En même temps, le raisonnement gagnant actuellement, hein, c'est d'écrire local pour vendre global. Donc, c'est parce que finalement, ce que les audiences du monde entier aiment, c'est que toutes les séries ne se ressemblent pas. On aime avoir sa série mexicaine, sa série coréenne, sa série américaine, et ainsi de suite. Donc, on a plaisir où qu'on soit à voir une série en se disant « Ah, celle-là, elle est vraiment anglaise. »
Voilà, et exactement. Et La Casa de Papel, par exemple, qui a un succès planétaire, avait démarré sur une petite chaîne espagnole. Il ne pensait absolument pas être distribué et célébré dans le monde entier. Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey, s'il faut en choisir une, s'il faut démarrer, parce que les gens, maintenant, ont quatre forces majeures, ont du temps chez eux, laquelle de ces trois séries est votre préférée? Ou je vais poser la question plutôt différemment, par laquelle faut-il commencer?
Alors, ça dépend des goûts, mais Peaky Blinders va peut-être quand même ma préférence. Elle est dramatique, elle est rythmée, on est plongé dans quelque chose qui a peut-être pas... ce qu'on reproche des fois aux séries historiques, d'être un petit peu lente, un petit peu poussiéreuse. Là, on est vraiment aux antipodes de ça. Je pense que ça peut vous réconcilier avec l'histoire et la fiction historique.
Yannis Deroy, vous êtes fan de séries britanniques ou vous êtes fan de séries tout court?
Tout court, même si on a un petit peu plus de temps en ce moment pour en regarder, mais la production est devenue tellement pléthorique que plus aucun série-film n'arrive à suivre, en fait. Hein.
Je vous demandais si vous aviez une autre série à nous conseiller, combien même ne serait-elle pas britannique?
Alors justement, on parlait de série coréenne tout à l'heure. Ouais. C'est une série historique, c'est Kingdom, elle passe sur Netflix, donc beaucoup de gens y ont accès. C'est assez fantastique, c'est une bonne entrée dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il est aussi question de zombies et de morts vivants.
Wow.
Mais c'est une bonne entrée dans la fiction historique coréenne. Les Coréens sont super forts pour faire des séries historiques super, et celle-là je la conseille, Kingdom.
Merci beaucoup Yannis Deroy. Vous avez publié L'Angleterre en série chez First Edition. Juste une question, est-ce que votre livre est rangé dans les librairies au rayon histoire ou au rayon culture?
Alors, ça dépend. Parfois cinéma, effectivement, et puis parfois histoire. Et puis il est en e-book aussi, par les temps qui courent, c'est pas toujours évident d'avoir accès à des livres en version papier.
Vous avez tout à fait raison de le dire.
Procurer en livre numérique.
En livre numérique. Combien ça coûte en livre numérique?
C'est moins de 15 euros.
D'accord. Merci beaucoup Yannis Deroy d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, par téléphone évidemment comme tous nos invités. Je rappelle votre livre, L'Angleterre en série, c'est paru chez First Edition. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Fanny Agostini, la complice de la matinale de Mathieu Béliard. C'est elle qui est en direct depuis sa ferme d'Auvergne. Elle revient à la télé pour un nouveau magazine En Terre Ferme sur Ushuaïa TV. Et puis nous recevrons l'écrivain culte Jean-Marie Gouriot pour le tome 4 de ses Brèves de comptoir. Oui, c'est culte. Le terme Brève de comptoir est même entré dans le dictionnaire. Et puis dans Les Indispensables, on va parler d'un de ses romans qui épouse l'actualité. C'est La Peste de Camus et Le Fléau de Stephen King notamment. Ce sera avec notre monsieur livre Nicolas Carreau. Et puis Clément Le Saffre, notre gamer, va vous conseiller les meilleurs jeux vidéo pour enfants. Donc là, je m'adresse aux parents, des jeux vidéo calmes et intelligents, ou les deux, ça existe.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, vous êtes bien ici sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de Culture Média avec Fanny Agostini, la complice de la matinale de Mathieu Béliard. Elle revient à la télé pour un nouveau magazine sur Ushuaïa TV ou télé. Et puis l'écrivain Jean-Marie Gouriot qui sort le 4e tome de ses mythiques Brèves de comptoir. Enfin, dans Les Indispensables, les livres qui reviennent dans l'actualité avec le coronavirus et des jeux vidéo pour vos enfants confinés.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Philippe.
Quel plaisir de vous entendre. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Ils peuvent vous entendre dans la matinale de Mathieu Béliard. Je vais donner les horaires. Vous les connaissez par cœur?
Oh, c'est 6h26 et 8h37 pile.
Exactement, on reconnaît les pros. Dans Rendez-vous à la ferme, vous intervenez en direct depuis votre ferme puisque vous avez décidé de partir y vivre et d'appliquer en pratique, de mettre en pratique vos idées sur l'environnement et l'agriculture. Et on vous a également connue comme présentatrice météo engagée. C'était sur BFM TV de 2011 à 2017. Vous étiez pendant 2 ans à la tête de Thalassa. Vous étiez la dernière présentatrice. L'émission existe encore, mais il n'y a plus de présentateur. Donc on pourrait dire que vous êtes irremplaçable. Et
oh là
votre
là.
Actualité, bah oui, sans les faits, sans les mots. Fanny Agostini, votre actualité, vous revenez à la télé sur Ushuaïa TV, qui fête ses 15 ans pour un nouveau magazine en terre ferme. La première, ce sera samedi, pas celui-ci mais l'autre, 28 mars à 20h50. C'est quoi le concept de En terre ferme ?
Alors, le concept d'En terre ferme, pourquoi ce titre ? C'est quand même un titre équivoque. Il y a cette notion d'ancrage, de réenracinement derrière, de notre rapport à la terre et de notre reconnexion avec la nature.
Ouais.
Et ferme, juste le mot ferme isolé, parce que nous tournons exclusivement dans une ferme en Auvergne. Alors, pas la mienne, mais à quelques encablures, juste
que
à côté dans le Puy-de-Dôme.
Je dois dire que j'étais un peu déçu, parce que je me suis dit, tiens, je vais voir la ferme où habite Fanny.
Elle est en travaux, Philippe.
Ça allait être ma question, pourquoi vous ne tournez pas chez vous ?
C'est pour ça.
Ça aurait pu être
par pudeur. Parce qu'il y a encore du chantier. Et oui, c'est un peu long. Hein. Je me suis installée il y a un an, donc on est encore en phase d'installation.
Ouais.
Et donc cette ferme est juste magnifique, là où on tourne dans le Puy-de-Dôme, puisqu'on est vraiment au milieu des volcans, au milieu de la chaîne des Puys, à Saint-Georges-de-Mons exactement. Et ce sont des bergeries réhabilitées en gîte, avec toujours la bergerie à côté et l'activité pastorale associée. Mais on est vraiment, dans son jus et de l'authenticité pure.
Pour avoir vu l'émission, je peux vous dire que c'est absolument magnifique et ça donne vraiment envie d'y aller et de caresser les biquettes. Combien d'émissions prévues ?
Alors, il y en aura 9 au total. Bon, vous devez vous douter qu'effectivement, là, notre planning de production et de diffusion est un petit peu chamboulé,
évidemment.
Mais le rythme est un rythme mensuel. Donc, nous avons déjà 2 numéros en boîte. Donc, la première qui sera diffusée, vous l'avez bien dit, le 28 mars à 20h50 sur Ushuaïa TV. Et la prochaine, on est en cours de réflexion justement pour le moment de sa diffusion et en planification de nos nouveaux tournages dès que les choses se seront tassées et calmées.
Alors, si je suis bien informé, le second invité ou le deuxième sera Joe Wilfried Tsonga, le tennisman. Et là, pour celle-ci, celle du 28, c'est Nicolas Hulot, c'est un petit peu normal. Nicolas Hulot, Ushuaïa, ça s'imposait.
Bien sûr. Donc déjà, l'émission sera diffusée au moment des 15 ans de la chaîne, hein, pour
ouais.
fêter les 15 ans, le 28 mars. Donc c'était tout à fait logique, effectivement, que Nicolas Hulot ouvre le bal. Et puis c'est aussi un personnage important, qui, après son expérience au ministère, où en est-il ? Comment chemine-t-il vers plus d'authenticité et d'activisme, je dirais, au sens concret du terme ? Parce que la promesse de l'émission, c'est ça. On invite chaque mois une personnalité qui va venir témoigner de son retour à la Terre ou de son rapport à la Terre et vivre une expérience qui va l'aider à cheminer vers plus d'authenticité et de bonheur de vivre simplement, parce que le message sous-jacent, il est là, c'est-à-dire que vivre plus simplement et se reconnecter avec la nature, ça implique beaucoup de bonheur et beaucoup de sens. C'est vraiment ce qu'on veut faire entendre. Il n'y a pas du tout cette notion restrictive ou retour en arrière ou que sais-je. C'est vraiment donner du sens et du bonheur.
Alors, c'est pas non plus un portrait et une hagiographie de Nicolas Hulot. Il y a plein de rencontres dans l'émission et il y a une rencontre que j'ai trouvée absolument exceptionnelle et passionnante, un type passionnant. Il s'appelle Sébastien Boller. Il est docteur en neurosciences. Il est l'auteur du livre Le bug humain. Je veux dire, la problématique, c'est que tout le monde est d'accord pour qu'on prenne soin de l'environnement, mais quasiment personne ne fait rien et tout continue. Et lui, comme il a travaillé non pas sur l'environnement, mais sur ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, il est même arrivé chez vous, vous avez dîné ensemble, vous avez pris un pot-au-feu, Nicolas Hulot, vous-même et lui, c'est vous qui avez cuisiné. Il est arrivé avec un cerveau en plastique qu'il a ouvert, il nous a montré comment ça fonctionnait. Il montre que notre cerveau a 2 parties, en plus des 2 hémisphères. Il montre le cortex et aussi une autre partie, ça s'appelle le striatum. Je prononce bien ?
Oui. Vous avez vraiment tout compris.
Le striatum.
C'est vraiment ça.
Et on
le
va vous
striatum.
Aller comprendre. C'est juste passionnant. Qu'est-ce que le striatum ? On écoute.
L'intelligence, c'est ce qui est apparu récemment dans l'histoire de l'humanité. C'est le cortex, c'est tout plié là. C'est cette partie de notre cerveau qui nous permet de construire des machines, d'avoir des concepts abstraits, de coopérer, de se parler. Et ce qui est au cœur là, c'est quelque chose qui s'appelle le striatum. Et le striatum, lui, il fait pas du tout de l'intelligence, il fait du désir brut. Et donc, il va nous inciter à agir. En nous donnant une molécule qui s'appelle la dopamine, qui nous donne du plaisir. Et donc, il va nous donner de la dopamine quand on fait des choses qui nous ont aidé à survivre. Et c'est quoi ? C'est manger. C'est avoir des relations sexuelles. Bon, je dirais pas plein. Et puis, c'est dominer les autres aussi. Ce petit bout de striatum, là, il nous donne de la dopamine et donc du plaisir à chaque fois qu'on arrive à se donner de l'importance en société, à gravir des échelons, à acquérir du pouvoir. Voilà, donc depuis toujours on cherche ça. Il a un principe de maximisation de toutes ces choses-là.
C'est là que c'est notre tragédie, c'est-à-dire qu'au moment où on doit se limiter, on est confronté à notre cerveau qui, lui, n'est pas spontanément programmé pour se limiter.
Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on pose un peu les choses. Voilà, c'est ça. On a décidé de débuter cette émission avec cet état de fait, avec ce constat et avec beaucoup de vulgarisation. Voilà, ouais. On a un professeur en neurosciences qui partage un pot-au-feu avec nous et qui partage aussi cette connaissance avec nous. Il est important effectivement de poser les choses et de comprendre pourquoi ça bloque depuis un quart de siècle alors, que nous faisons des négociations sur le climat, que nous parlons d'écologie. Il y a un petit élément, le striatum, effectivement, qui nous empêche de faire cette transition écologique. Le principal ennemi est identifié, c'est nous-mêmes, ouais. C'est notre cerveau. Comment fait pour remuscler notre cerveau différemment et comment fait-on pour dépasser effectivement notre propre nature? La question, elle est vraiment là et on part de ce constat-là pour aller chercher des solutions opérationnelles. Voilà.
Je souris, Fanny, parce que vous posez la question, vous dites, mais est-ce qu'on peut enlever le striatum dans notre cerveau? Que se passe-t-il alors?
Alors oui, ben c'est-à-dire que à ce moment-là, la question se pose. Si le souci c'est le striatum, pourquoi pas une ablation générale?
Parce qu'après on n'a plus envie de rien, on n'a plus faim, on n'a plus de désir sexuel, on se reproduit plus.
C'est un petit élément qui conditionne aussi notre survie, mais qui peut se muscler de la plus mauvaise des manières, effectivement, ouais. Comme l'a expliqué Sébastien Boller et comme vous le comprendrez en regardant l'émission la semaine prochaine. Et on peut effectivement créer du stimuli et de la dopamine de manière très différente, avec une reconnexion avec la Terre, évidemment, avec la nature, mais aussi à travers l'altruisme, à travers des actes gratuits qui font aussi du bien à notre entourage. Donc il est important effectivement, voilà, dans son livre, Sébastien Boller fait même référence à Mère Teresa, ouais. En disant qu'elle devait avoir un striatum surdimensionné, mais musclé dans le bon sens. Voilà, donc il y a des choses à faire.
Et je pense aux parents qui nous écoutent, et il explique qu'il faut savoir dire non aux enfants. Parce que si vous autorisez tout aux enfants, si vous cédez à tous les caprices, leur striatum est tellement habitué à être récompensé qu'il ne veut plus s'arrêter et il fait toujours, toujours et toujours plus. Et ça rappelle ce fameux texte de Platon où il disait si on cède à tous les caprices des enfants, on en fait des dictateurs.
Voilà, et Johnny aussi l'a bien dit, l'envie d'avoir envie, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où quand on a tout de suite et rien plus tard, on a plus d'envie. Voilà, c'est ça. Donc créer cette envie-là, recréer cette envie-là, c'est aussi cultiver une certaine frustration. Et c'est comme ça qu'on apprécie les choses et les choses aussi simples de la vie.
On n'a parlé que du premier tiers, voire du premier quart de l'émission de Fanny Agostini. On a encore plein de questions pour vous, Fanny. Vous restez avec nous, évidemment.
À tout de suite.
Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Fanny Agostini à distance depuis sa ferme, avec ce très très bon son. Vous avez une très bonne liaison, c'est un plaisir. Je le rappelle, vous revenez à la télévision sur Ushuaïa TV qui va fêter samedi 28 mars ses 15 ans et vous lancez sur cette chaîne un nouveau magazine. Ça s'appelle En Terre Ferme. Votre premier invité, c'est Nicolas Hulot. Il y a une grande séance avec Nicolas Hulot, une grande séance de contrition, de mea culpa, d'excuses de sa part. Il parle, je le cite, de se débarrasser de tous ses vices, comme si c'était une tâche indélébile dans son parcours de vie. Limite, il aurait dû faire de la prison pour ça. On écoute.
J'ai dû me débarrasser de tous mes vices. Hein. Il y en avait un paquet, parce que je ne peux pas nier que j'ai eu ce grand privilège et ce grand tort de piloter des engins à moteur.
T'adorais ça?
Pas dire le contraire. Cette période où j'ai piloté des hélicoptères, je ne devrais pas le dire, mais c'est un des engins les plus jouissifs à piloter. Mais je prends le même plaisir à faire du vélo aujourd'hui, voilà. Donc il faut changer ses comportements au fur et à mesure de que tu prends conscience du fait que c'est pas cohérent avec ce que tu prônes.
Quand il s'excuse d'avoir conduit des engins à moteur, est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Ou alors je posais la question différemment. Il y a 39 millions de voitures en circulation avec un moteur à explosion. Est-ce qu'il faut que tous les Français se flagellent et marchent à genoux en implorant le pardon?
Bien sûr que non. Et je ne vais pas vous dire ça, moi qui habite aujourd'hui dans la campagne et qui ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. Ouais. Ce qu'il dit simplement, et c'est vrai que là vous avez sorti un petit extrait, c'est qu'il faut apprendre à vivre autrement, à consommer autrement.
Bien
et
sûr.
C'est vrai que l'épisode que nous vivons actuellement est révélateur et peut-être un détonateur, je l'espère. Et c'est important, effectivement, de rebattre un petit peu ces cartes-là et notre façon d'agir. d'appréhender le monde, y compris dans la mobilité. Ouais. Nicolas Hulot, il n'en fait pas des caisses, c'est quelqu'un qui a cheminé aussi, c'est quelqu'un qui a été très très bon aussi pendant des années pour établir un diagnostic sur la situation, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a toujours fait preuve d'exemplarité, ou en tout cas qui a mis en avant ces changements de pratique pour inspirer les autres. Et aujourd'hui, Nicolas Hulot, après cette ultime, je dirais, expérience au ministère, Nicolas Hulot, lui, aujourd'hui, incarne concrètement, et sur le terrain d'ailleurs au travers de sa fondation pour l'homme et la nature, et à travers aussi lui, en tant qu'homme et ses actions au quotidien, il incarne aujourd'hui l'écologie, et non pas, comme il le dit, l'écologie restrictive, mais comment trouve-t-il du plaisir aujourd'hui autrement? Et je crois que la réponse, elle est là. Comment trouver du plaisir autrement, non pas en prédatant, non pas en surconsommant, mais en étant peut-être plus dans la frugalité, ou en tout cas la recherche de bonheur ordinaire.
Voilà, j'ai encore plein de questions, Fanny Agostini, mais vous avez vu, pour rebondir ce que vous venez de dire, que peut-être que cette crise aura du bon pour quelque chose, la crise du coronavirus. Vous avez vu que les dauphins sont revenus dans les ports de Sardaigne depuis qu'il n'y a plus de ferry, et vous avez vu qu'on voit à nouveau le fond de l'eau dans les canaux de Venise.
La nature est d'une résilience folle, donc ça peut aller aussi très vite.
Mais oui, on pensait pas que ça irait aussi vite.
On peut inverser la vapeur, effectivement, d'une manière extrêmement rapide. Donc ça doit nous donner énormément d'espoir. Moi-même, je vais vous dire, en partant habiter en Auvergne et à la campagne, je suis aujourd'hui bien plus heureuse. Alors je dis pas que tout le monde aujourd'hui doit quitter les villes pour aller habiter à la campagne. On n'en a pas tous la possibilité, ou en tout cas de réinventer son activité professionnelle. Mais il y a quand même un état de fait, c'est-à-dire que la moitié de l'humanité s'entasse sur 1% des terres, sur 1% de la surface du globe, et donc principalement dans les grandes mégalopoles. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Nous devons repenser aussi notre répartition sur le territoire.
Exactement.
Ça, c'est quand même aussi une grande question soulevée.
Et la répartition du travail. Puisque c'est les gens s'y mettent dans les villes, c'est pas toujours de gaieté de cœur, c'est aussi parce que c'est là qu'il y a du travail. À la fin de l'émission, Fanny Agostini, vous révélez que vous attendez un enfant. Ça serait pas un sujet s'il n'y avait pas cette question que vous posez. En général, quand on dit on se pose cette question, c'est vis-à-vis de son couple. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Non, pas du tout. Vous, c'est vis-à-vis de l'environnement. Je vous cite, vous dites « Je ne me suis pas rangé du côté de ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir d'enfants pour régler la crise écologique. » Expliquez.
C'est-à-dire que oui, on parle aujourd'hui beaucoup d'enjeux démographiques, c'est une réalité. Bien sûr que nous sommes nombreux, sommes-nous trop nombreux, c'est la question. Moi, je me dis effectivement que la crise ne doit pas être réglée par une restriction à avoir des enfants. Quand je dis restriction, se renouveler soi-même et son conjoint, d'accord, avoir 10 enfants, c'est peut-être quelque chose qui est problématique aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense effectivement que modifiant nos modes de vie de telle manière que effectivement nous ne sommes plus des prédateurs mais des personnes et des êtres vivants qui s'insèrent dans la boucle du vivant à travers nos modes de vie mais aussi notre travail, parce que je suis persuadée que les nouveaux jobs qui émergent seront plutôt des boulots qui permettent de restaurer le vivant plutôt que de le massacrer comme ça a été le cas ces dernières décennies. Voilà, nous devons trouver des nouveaux modèles économiques pour soigner, pour penser la planète et non plus le contraire.
Et quelque chose...
Je suis persuadée qu'on peut avoir un impact positif. Moi ma démarche, c'est pas d'avoir l'impact le moins négatif sur cette planète, c'est d'avoir un impact positif.
Ouais. Voilà. Et puis surtout, on va voir que peut-être le télétravail qui est pratiqué par beaucoup, beaucoup de gens, les choses vont peut-être changer de ce point de vue-là. Habituellement, quand on n'est pas en période de confinement, je l'explique, les auditeurs d'Europe 1 vous entendent dans la matinale de Mathieu Béliard à 6h26 et 8h37, c'est dans Rendez-vous à la ferme, vous intervenez en direct de votre ferme de Boisset, c'est en Haute-Loire, enfin, je dis ça, quand la liaison fonctionne, sinon faites ce qu'on fait à la campagne, vous allez chez les voisins, ça c'était le mois dernier.
Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Dans sa ferme pédagogique, à chaque fois on peut vous imaginer à la ferme, vous avez les bottes aux pieds là en ce moment, tout va bien?
Alors oui, non, mais je vais vous dire, il y a eu un coup de vent il y a quelques jours, et c'est vrai que ma ligne est un petit peu défaillante, donc je suis allée chez Marie-Thérèse, ma voisine, ce matin, pour pouvoir faire le direct correctement.
Elle laisse pas Marie-Thérèse.
Elle m'a fait un feu de bois, elle est remontée se coucher.
Si je puis me permettre, elle est sympa Marie-Thérèse, parce qu'à 6h du matin, voir Fanny Agostini débarquer pour parler d'un petit scarabée. Merci beaucoup Fanny Agostini, ce rendez-vous à la ferme, et merci à Marie-Thérèse. Offrez-lui un café pour nous, si je puis me permettre, Marie-Thérèse.
Je vais aller faire couler le café.
Voilà, on découvre les joies des voisins. Merci beaucoup Fanny Agostini.
Merci,
je rappelle votre nouveau magazine En Terre Ferme, ce sera samedi, pas celui-ci mais l'autre, le prochain, 28 mars à 20h50 sur Ushuaïa TV qui fête ses 15 ans d'existence. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Philippe.